Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rodensweig au micro pour le bulletin dont voici les titres. Prague souhaite que l'adhésion du Monténégro à l'OTAN soit la plus rapide possible. Une déclaration de partenariat stratégique entre l'Allemagne et la République tchèque signée ce vendredi. Et puis cinéma, l'acteur américain Richard Gere est déjà arrivé à Karlovy Vary pour le festival. La République tchèque souhaite donc que le Monténégro soit invité à intégrer l'OTAN avant la fin de cette année. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre tchèque Bohuslav Sobotka à l'issue de sa rencontre à Prague avec son homologue Milo Djukanovic. Le chef du gouvernement tchèque, qui regrette qu'aucune décision n'ait encore été prise sur le sujet, estime que le Monténégro devrait être le premier pays à élargir les rangs de l'Alliance. Les deux hommes ont rappelé l'importance de la formation d'une zone de stabilité dans les Balkans de l'Ouest, entre autres en raison des flux migratoires dans la région. Par ailleurs, Bohuslav Sobotka et Milo Djukanovic se sont félicités du développement des échanges économiques bilatéraux avec un chiffre d'affaires qui a triplé ces cinq dernières années. L'énergie, les transports, le tourisme sont les trois activités où la coopération est la plus intense dans les relations tchéco-monténégrines. Les ministres allemands et tchèques des Affaires étrangères signent une déclaration de partenariat stratégique entre les deux pays à Berlin ce vendredi. Cet accord doit permettre d'approfondir le dialogue et la coopération entre l'Allemagne et la République tchèque. Cette déclaration fait suite à l'accord de bon voisinage signé en 1992 entre la RFA et la Tchécoslovaquie. Elle englobe 9 domaines concrets, parmi lesquels la politique étrangère européenne, la culture et la langue, le marché du travail, la recherche et la science, les transports, la sécurité et la politique de défense, ou encore la lutte contre le trafic de drogue. Nous souhaitons mettre en place avec l'Allemagne un modèle de coopération entre deux pays voisins, dont l'un est grand et l'autre plus petit, c'est ce qu'a expliqué le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek. Sir Nicholas Winton est décédé mercredi matin chez lui à Londres à l'âge de 106 ans. Il avait sauvé la vie de 669 enfants tchécoslovaques, principalement d'origine juive, en 1938 et 1939, en organisant leur convoi ferroviaire depuis Prague et en leur trouvant des familles d'accueil à leur arrivée à Londres. Vous en saurez plus sur le sujet dans quelques instants dans la suite de notre émission. Un mot de cinéma, je vous le disais en titre, l'acteur américain Richard Gere est déjà arrivé dans la station thermale tchèque de Karlovy Vary, où commence ce vendredi la 50e édition du Festival international du film. Il doit y recevoir un globe de cristal pour l'ensemble de sa carrière et y présentera deux nouveaux films dans lesquels il joue. Un mot sur la météo pour finir. Il fait chaud en République tchèque et il fera encore plus chaud dans les jours à venir. Selon l'Institut de météorologie, le mercure grimpera à plus de 31 degrés dès ce vendredi en Bohême. Ce week-end, le thermomètre affichera plus de 34 degrés dans la moitié ouest du pays et pas moins de 20 degrés la nuit. Cette vague de chaleur s'accentuera encore en début de semaine prochaine pour atteindre au moins 37 degrés. Parallèlement, les météorologues mettent en garde contre le risque d'incendie et de violents orages. Voilà pour les principaux titres de l'actualité tchèque. Pour plus d'informations, vous connaissez déjà l'adresse de notre site www.radio.cz. Et pour le reste de l'actu et la suite de notre émission, c'est avec Guillaume Narguet dans une poignée de secondes.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc Alexis pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque en français sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure de nouveau une triste nouvelle, sauveur de centaines d'enfants tchécoslovaques avant la Deuxième Guerre mondiale. Nicholas Winton, surnommé le Schindler britannique, est décédé mercredi. Nous retracerons bien entendu la vie de ce grand monsieur, un grand monsieur dont l'histoire est longtemps restée méconnue. Et ce sera dans la seconde moitié de cette émission. Avant cela, c'est de l'action des groupes d'intérêt, aussi appelés lobbies, dans les couloirs politiques et dans la conception des lois dont nous parlerons. Un sujet et un problème récurrent en République tchèque, contre lequel diverses mesures sont proposées, comme nous l'entendrons dans quelques instants. C'est ensuite de théâtre et de l'œuvre de Václav Havel dont il sera question dans le cadre du festival OFF d'Avignon qui débute ce vendredi et présenter un cycle Václav Havel avec 4 pièces de théâtre du dramaturge et ancien président tchèque. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute pardon, à toutes et à tous. L'action des groupes d'intérêt qui participent du processus de conception des lois s'effectue en République tchèque dans la plus grande opacité. C'est le constat critique de la branche tchèque de Transparence internationale qui, à l'occasion d'une conférence de presse en début de semaine, a présenté différentes mesures, des mesures souvent inspirées de celles prises au niveau européen pour réguler l'action des lobbyistes. C'est ce qu'a exprimé son président David Ondráčka pour Radio Prague. C'est un sujet de Pierre Maignan.
Nous disons que la République tchèque a manqué la définition claire de lobbying. Pour nous, pour Transparency International, c'est tous les contacts entre le secteur public et privé pour influencer la décision publique.
Selon cette définition, sont considérés comme des lobbies les organisations qui défendent l'intérêt d'entreprises ou de secteurs d'activité, mais également des associations issues de la société civile, à l'instar de Transparency International. Pour l'ONG, les activités de ces structures ne sont pas mauvaises en soi, mais l'absence de cadre dans lequel elles s'effectuent ouvre la voie aux pratiques les plus diverses et en particulier à la corruption. Surtout, les citoyens tchèques n'ont aucun moyen de déterminer dans quelle mesure certaines lois ont été écrites, plus ou moins partiellement, sous l'influence de groupes de pression. Les exemples seraient pourtant légion, selon David Ondráčka.
Il y a plusieurs exemples qui sont visibles récemment. Je pense, par exemple, la loi sur l'assurance, c'est le premier exemple, ou deuxième, c'est la loi sur le jeu. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment délicat et politiquement c'est vraiment difficile à trouver solution balancée, mais parce que nous savons pas qui est vraiment lobbyiste sur ce sujet, c'est difficile à dire quels sont l'intérêt derrière cette loi.
Son collègue, Radim Bourech, évoque quant à lui la gabegie autour de la loi sur le photovoltaïque qui a coûté des millions de couronnes à l'État tchèque dans des subventions à l'utilité contestable. C'est donc de transparence qu'aurait besoin le processus législatif en République tchèque. Pour cela, l'organisation Transparency International propose diverses mesures qu'elle recommande de développer progressivement pour éviter qu'elles soient directement contournées par les organisations concernées. L'idée est de rendre publique l'identité des lobbyistes et les sommes d'argent mobilisées par les grands groupes pour faire pression sur les décideurs. Il conviendrait de s'inspirer des nouvelles règles en vigueur au niveau de la Commission européenne à Bruxelles, le paradis des lobbyistes, puisque leur nombre y est estimé à entre 15 000 et 30 000. Ainsi, depuis début décembre 2014, les commissaires européens et les membres de leur équipe doivent publier sur une page internet l'agenda de leur rencontre avec des représentants de groupes d'intérêt. Or, pour pouvoir rencontrer des responsables européens, les lobbies doivent de leur côté s'inscrire sur le registre européen de transparence, un registre que David Ondráčka aimerait bien voir copié à Prague et dont il décrit le fonctionnement.
Il existe ce registre volontaire, mais aujourd'hui, plus que 700 lobbies sont registrés là-bas et la plus grande entreprise publier combien d'argent il dépense sur le lobbying en Union européenne.
D'après David Ondráčka, le gouvernement tchèque est plutôt réceptif sur cette question d'un registre des lobbies, puisque le conseil gouvernemental en charge de la lutte contre la corruption s'est décidé à plancher sur un projet de texte inspiré du modèle bruxellois. Les discussions sont moins poussées en ce qui concerne une réglementation accrue des entreprises sur le sujet du lobbying. D'importants progrès restent donc à faire dans le cadre d'un comparatif européen réalisé récemment par Transparency International. La République tchèque fait moins bien en matière de régulation des groupes d'intérêt que des pays tels que la Slovénie, la Lituanie ou la Grande-Bretagne. Elle est toutefois meilleure élève que d'autres comme la France, la Slovaquie ou l'Allemagne.
Du 3 au 26 juillet, dans le cadre du festival Off d'Avignon, est présenté un cycle Václav Havel avec 4 pièces de théâtre du dramaturge et ancien président tchèque. Tous les jours, les festivaliers auront ainsi l'occasion de découvrir une des pièces mises en scène par Nixon Pitakaj de la compagnie Libre d'Esprit au micro de Radio Prague d'Anna Kubišta. Nixon Pitakaj est revenu sur la genèse de ce cycle Václav Havel.
Le cycle Václav Havel, il est né il y a très longtemps, en fait. Et ça fait 5 ans qu'on est dessus, nous. Donc, ça a commencé avec audience dans le premier temps. D'ailleurs, c'était pas tout à fait un projet au début. C'était plutôt une lecture. Et on était tellement sous le choc de l'écriture de Vaclav Havel. Puis on a continué et on n'a pas pu s'arrêter jusqu'à présent. Voilà, c'est un projet qui nous a pris et qui ne nous lâche plus.
Alors justement, vous dites ouais. Ça ne vous lâche plus. Vous présentez 4 pièces hein, quand même. C'est pas mal hein, pour le Festival d'Avignon. Il y a Audience, Vernissage, Pétition et L'Argot Désolato. Vaclav Havel a écrit beaucoup de pièces. Pourquoi avoir choisi celle-ci en particulier?
Au début, ce n'était pas vraiment un projet. On était 2 comédiens avec Audience. Et comme dans la troupe, il y a plusieurs comédiens. Ils étaient tellement sous le charme que tout le monde voulait jouer Vaclav Havel. Du coup, il m'harcelait pour monter d'autres pièces. On est parti dans le premier temps avec les 3 pièces de premier acte. Après, ensuite, il met L'Argot Désolato, il y a plusieurs comédiens sur scène, et du coup, on voulait tous en même temps. Bon, ces pièces-là, elles ont déjà été présentées par le passé dans le festival, et puis on a joué un peu partout dans toute la France. Mais cette année, on a décidé vraiment, en fait, de ramener les 4 pièces. Notre envie, c'est de plonger les spectateurs totalement dans l'univers de Vaclav Havel. Voilà, c'est ça, l'envie.
Vous parliez de choc ou alors aussi du fait que vos comédiens ont été charmés aussi par son écriture. Est-ce que vous pourriez un petit peu décrire justement plus en détail ce qui vous a séduit chez Vaclav Havel dans son écriture?
Dans mon cas personnel, j'ai des liens très forts avec Vaclav Havel parce que moi-même je suis d'origine de l'ex-Yougoslavie et plus précisément du Kosovo. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que il se trouve que le hasard de la vie a fait que, à quelques jours près, mon grand-père a fait la même durée de temps en prison que Vaclav Havel. Il y a plusieurs petites anecdotes comme ça en ce qui me concerne avec lui. Il y a un lien très fort au point où j'ai l'impression qu'il c'est quelqu'un de ma famille. Il est devenu quelqu'un de ma famille, donc je passe mon temps avec lui quelque part. Et après, par rapport à l'écriture, alors Vaclav Havel, ce qui est choquant, ce qui est terrorisant dans son écriture, c'est qu'en fait, il utilise très peu de mots et ça dit beaucoup. Et ça, c'était au départ, c'était un peu compliqué à transmettre à mes amis français parce qu'il aime bien les belles phrases. En travaillant, ils se sont rendus compte qu'à quel point on a peu besoin des mots. Et Vaclav Havel, son écriture est un peu à l'image de ce que nous avons vécu un peu tous dans le pays de l'ex-bloc soviétique, on va dire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler beaucoup, on ne pouvait pas dire grand. Enfin, il fallait faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qui. Et du coup, Vaclav Havel décrit ces périodes de la Tchécoslovaquie à l'époque. C'est en ça que c'était horrifiant pour les comédiens et aussi pour les gens qui viennent voir les pièces. À chaque fois, ils disent mais c'est incroyable ce qu'il y a comme derrière ce qui n'est pas dit.
Est-ce que justement, puisque vous dites évidemment ces pièces sont aussi beaucoup empreintes de ce qu'il a vécu, de l'époque communiste, vous le disiez pour vous-même et pour la Tchécoslovaquie, est-ce que son message ou disons ce qu'il a écrit, c'est encore valable? Est-ce que les gens d'aujourd'hui, les spectateurs d'aujourd'hui peuvent s'y retrouver justement? Est-ce que ça a une valeur universelle?
J'ai vécu des scènes similaires quand je suis arrivé en France. Parce que quand je suis arrivé en France, bon, comme vous savez, l'ex-Yougoslavie a éclaté. Bon, j'étais obligé de partir rapidement. Enfin, voilà. Et donc, du coup, j'étais obligé de travailler tout de suite en France. Et j'ai travaillé notamment dans une usine à Paris. Eh bien, j'ai vécu pratiquement la même scène qu'on voit dans l'audience en France. Par la suite, après, il y a eu beaucoup de suicides dans différentes usines, différentes entreprises françaises. Et c'est ça que le public aujourd'hui, quand il voit les pièces de Vaclav Havel, dit « mais c'est terrifiant, en fait. Il nous parle de là-bas, il nous parle de ce qu'on avait... on a trouvé ça extrêmement dur par le passé, il y a 30 ans, il y a 40 ans, qu'on vous regardait avec des grands yeux en disant « mais ce qu'ils sont en train de vivre, c'est terrible, ils sont sous la surveillance ». Et il se trouve qu'aujourd'hui, les mêmes personnes se disent « mais en fait, je vis aujourd'hui la même chose et avec un autre système, avec le système démocratique, avec le système, la voie de la démocratie. » En même temps, aujourd'hui, on est arrivé dans des pratiques similaires.
C'était donc Nixon Patakai de la compagnie Libre d'Esprit. Il répondait aux questions d'Anna Kubishta. Et c'est ainsi que s'achèvent les faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde moitié de cette émission. Une seconde moitié un peu spéciale. En effet, parfois présenté comme le Schindler britannique, Nicholas Winton est décédé mercredi à Londres. Il était âgé de 106 ans. Nicholas Winton a sauvé la vie de 669 enfants tchécoslovaques, principalement d'origine juive, en 1938 et 1939, et ce, en organisant leur convoi ferroviaire depuis Prague et en leur trouvant des familles d'accueil à leur arrivée à Londres. Longtemps resté dans l'ombre, ce n'est qu'à partir de la fin des années 1980 que son nom a été connu et reconnu un peu partout dans le monde. L'année dernière, Nicholas Winton avait été décoré de l'ordre du Lion Blanc, la plus haute décoration d'État en République tchèque. Mais avant cela, différentes campagnes de soutien avaient été organisées pour soutenir sa nomination au prix Nobel de la paix. La dernière d'entre elles, en 2013, avait attiré de nouveau les projecteurs sur l'histoire de Nicholas Winton. À l'occasion de sa mort, donc, nous vous proposons de réécouter l'émission qu'avait alors préparée Marion Dautry. Cette émission avait été diffusée le 6 février 2013.
Chapitre de l'histoire.
Nicholas Winton avait une carrière toute tracée et tranquille dans le secteur bancaire londonien. Pourtant, en 1938, il préfère abandonner le ski dans les Alpes suisses pour se rendre à Prague, prêter main forte à un ami, volontaire dans une association pour réfugiés juifs. Anticipant sur les événements, il installe un bureau dans la salle à manger de son appartement sur la place Venceslas et travaille immédiatement à l'affrètement de convois de trains à destination de Londres pour évacuer les enfants tchécoslovaques. En tout, 8 trains, 8 Kinder Transport partent ainsi de la gare de Prague. Le 9e, préparé pour le 1er septembre 1939, avec à son bord 250 enfants, ne quitte pas le quai. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. Une histoire qui a bien failli rester inconnue de tous, s'il n'y avait eu Greta, la femme de Nicholas Winton, pour découvrir dans une valise rangée au grenier de vieux documents faisant état des activités de son mari à Prague en 1938 et 1939. C'est ensuite la BBC qui dévoile les faits dans l'émission That's Life en 1988, à l'occasion de laquelle elle organise une réunion surprise entre Nicholas Winton et une trentaine de ses enfants, retrouvés grâce aux documents apportés par Greta.
Is there anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please?
Des retrouvailles qui émeuvent le monde entier, et particulièrement le réalisateur slovaque Matěj Mináč, qui voit dans cette histoire une nouvelle inspiration pour la jeunesse. Il tourne 3 films inspirés de cette histoire, le film de fiction Všichni moje blízcí, Tous mes proches, documentaire Nicholas Winton, Sila Lidkosti, Nicholas Winton, La force d'un juste, récompensé par un Emmy Awards en 2002, et enfin Nicky's Family, La famille de Nicky, qui mélange fiction et documentaire. 3 films motivés par l'intérêt soulevé dans le monde entier par la découverte de cette histoire, et particulièrement chez les jeunes. C'est leurs encouragements qui ont poussé Matěj Mináč à continuer à développer ce thème de la bonne action et de l'abnégation autour de l'histoire de Nicholas Winton.
Des millions d'enfants, principalement des États-Unis, du Canada, de France, d'Allemagne, mais aussi d'autres pays, ont vu mon premier film dans le cadre de séances scolaires. Ils ont décidé qu'ils devaient eux aussi faire une bonne action, comme Sir Winton, et ils m'ont écrit à ce sujet. Ça nous a encouragés et nous avons tourné encore un troisième film avec cette thématique.
Un troisième film qui mêle archives, documentaires et fiction et retrace le parcours de Nicholas Winton, Nicky, et des enfants, ses enfants. Présenté officiellement au Sénat tchèque le 13 janvier 2012, ce film multigenre a également servi de base à un projet interactif et pédagogique mené par Matěj Mináč avec plusieurs écoles tchèques pour faire découvrir l'histoire de Nicholas Winton aux jeunes enfants.
C'était en quelque sorte une aventure de travailler là-dessus, car cette histoire s'est découverte au fur et à mesure. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas où vivent 400 de ces enfants sauvés. Personne ne sait où ils sont. Il y a toujours de nouveaux documents qui apparaissent ou qui sont découverts. Et puis Sir Nicholas Winton est toujours vivant. Il mène une vie très riche. Alors nous nous sommes sentis poussés à faire ce film.
Si povedali, že urobíme ešte jeden film. Le succès en République tchèque est immédiat. Nicholas Winton est recommandé deux fois pour le prix Nobel de la paix en 2008 et 2011 par Přemysl Sobotka puis Miroslava Němcová en tant que président de la chambre basse du Parlement tchèque. Ces deux échecs n'ont pas découragé un collectif d'élèves de l'école privée Opengate qui se sont lancés dans une vaste campagne de recueil de signatures pour soutenir une nouvelle proposition de nomination. Au cœur de la motivation de ces jeunes, la volonté que le monde n'oublie pas cette histoire, ni le geste courageux d'un homme qui a permis de sauver les vies de ses enfants. Jiří Kostečka est leur professeur et le coordinateur du projet, il nous en dit plus.
C'est avant tout l'aspiration très grande de ces jeunes qui veulent montrer qu'ils connaissent l'histoire de Nicholas Winton et des enfants qu'il a sauvés, qu'ils n'oublient pas et surtout qu'ils ont conscience de la grandeur de cette action. Pour ma part, je connais très bien l'histoire de Nicholas Winton et je me suis engagé dans ce projet car l'année dernière, c'est l'Union européenne qui a reçu le prix et j'ai réalisé qu'elle aurait pu attendre quelques années. Alors que Sir Winton a déjà 103 ans et qu'il mérite véritablement d'être récompensé. Je tiens à souligner que ce projet est réalisé à 90% par les élèves. Nous les avons un peu aidés pour l'organisation de base et avec quelques documents importants, mais le reste, toute la stratégie, l'initiative de récolter des signatures de soutien, tout a été le travail de ces jeunes et c'est ce qui est magnifique.
Tomáš Titiera a 18 ans et il est l'un des organisateurs de l'initiative pour la nomination de Nicholas Winton au prix Nobel de la paix. Pour lui, il s'agit de faire perdurer son héritage et de faire en sorte que ses actes ne soient pas oubliés.
Nous avons connu l'histoire de Nicholas Winton grâce à un programme sonore diffusé dans notre école et nous avons assisté à la première du film de Matěj Mináč, La famille de Nicky. L'événement déclencheur pour nous a ensuite été quand deux femmes sont venues à l'école, deux femmes que Nicholas Winton a sauvées quand elles étaient enfants. Nous nous sommes dit qu'il devait être reconnu pour ses actes et qu'il méritait le prix Nobel. C'est pour ça que nous avons lancé cette initiative.
Campagne de pétition en ligne, site internet, stand de signatures. Les participants de cette initiative n'ont pas ménagé leurs efforts pour attirer l'attention sur leur projet. Avec succès, puisque les médias tchèques ont largement participé à la promotion de cette action. Et Miroslava Němcová, en sa qualité de présidente de la Chambre basse du Parlement, a une nouvelle fois proposé cette nomination au comité Nobel afin de soutenir leur projet. Un succès qui s'est également exprimé à l'étranger, puisque d'autres organisations de jeunes ont lancé des initiatives similaires. Jiří Kostečka et Tomáš Titiera s'en félicitent et espèrent que cela contribuera à convaincre le comité Nobel.
Des pays étrangers s'inscrivent au fur et à mesure dans notre projet. Nous avons d'abord reçu un grand soutien aux États-Unis, mais j'ai été informé qu'il y a aussi des actions en France et que le Parlement d'Israël a exprimé son soutien. Maintenant, nous préparons de grandes conférences de presse avec l'assistance des ambassades dans plusieurs pays dans lesquels nous plaiderons pour un travail commun sur les pétitions afin que le soutien que nous recevons s'exprime dans le monde entier.
Nous espérons recevoir un soutien du monde entier. Nous travaillons pour créer des initiatives semblables à la nôtre à l'étranger. Grâce à ce soutien, nous espérons nous rapprocher de notre but et que le comité Nobel examinera sérieusement cette nomination.
La proposition de nomination est parvenue au comité Nobel accompagnée de 15 000 signatures de soutien, et ce pour la seule République tchèque. Reste encore la deuxième étape, atteindre le demi-million de signatures dans le monde entier pour convaincre les membres du comité de l'importance de cette nomination. Jiří Kostečka.
La deuxième phase se déroulera jusqu'en juin, jusqu'au début des vacances d'été. Le but est de rassembler le maximum de signatures en République tchèque et dans le monde entier. Donc il faut étendre l'initiative. Nous voulons recueillir au moins un demi-million de signatures. Ensuite, nous voulons organiser des événements dans les ambassades tchèques des pays où vivent les enfants sauvés par Nicholas Winton et avec leur aide de faire connaître davantage leur histoire. Enfin, nous rassemblerons toutes ces signatures et nous les enverrons au comité Nobel à Oslo afin d'appuyer notre demande d'examiner la possibilité de décerner le prix Nobel de la paix à Nicholas Winton.
Un projet ambitieux pour un petit groupe d'élèves qui n'ont qu'entre 16 et 19 ans, mais qui semble en bonne voie au vu du retentissement mondial déjà soulevé. Le comité Nobel doit à présent retenir 199 propositions parmi toutes celles reçues, puis voter l'attribution du prix. Réponse en octobre 2013.
Le bloc actualité préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague se referme pour aujourd'hui. Merci encore de votre attention et de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague.